Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir ici à la médiathèque Valais, site de Sion, en qualité de membre du comité élargi de la toute nouvelle association Proche Aidant Valais, qui a vu le jour en février dernier. Je tiens d'abord à excuser l'absence de notre président, M. Julien Dubuis, qui est retenu par d'autres obligations ce soir. Avant de passer la parole à nos deux conférenciers, j'aimerais rappeler les buts principaux de notre association. Tout d'abord, faire reconnaître le statut de proche aidant, car c'est des personnes qui vivent souvent dans l'ombre. Puis, d'un côté plus pratique, recenser sur une plateforme internet l'ensemble des prestations existantes, faciles d'accès et d'utilisation. Celle-ci devrait être en ligne au début du trimestre 2017. Sans attendre, je vais vous présenter nos deux intervenants de ce soir. Tout d'abord, Madame Nathalie Ray, elle est mariée à 3 enfants, dont 2 souffrent de handicap. Nathalie aide au quotidien ses enfants. Elle préside l'association INSIEME section Valais-Romand depuis 2004. C'est une association qui touche plus de 300 familles qui sont touchés par le handicap mental et qui a pour but d'organiser des loisirs pour les enfants handicapés mentaux. Monsieur Laurent Bastardeau, parrain de notre association, est marié, est père de 2 filles et grand-papa à 6 reprises. Il est entré en 1995 à la SSR Radio, puis en 2001, il a rejoint le département des sports de la SSR, qui est devenu, non, de la TSR, aujourd'hui devenu RTS. Bref, une histoire de lettres. L'an dernier, il est retourné à la RTS Radio. Il est proche aidant de son épouse, Sylvie, atteinte de sclérose en plaques. Chacun de ces 2 proches aidants témoignera. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, la discussion est ouverte et elle se veut interactive. Merci de votre attention et bonne écoute.
Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de vous parler de mon parcours en tant que proche aidant, puisqu'aujourd'hui, même les parents d'enfants handicapés sont appelés aussi proche aidant. Donc, comme l'a dit, j'ai 3 enfants, dont 2 présentent un handicap mental. Donc, j'ai donné naissance à 3 enfants. Le premier est 28 ans, donc il est actuellement à Londres, et Pauline qui a 26 ans et Simon qui a 20 ans. Donc tous 2 travaillent dans les ateliers de la Castalie. Pauline est née normalement, elle a été hospitalisée à l'âge de 7 mois car son périmètre crânien n'avait pas grandi. Elle faisait des spasmes infantiles qui est d'origine épileptique. On nous a dit que c'était le cytomégalovirus, CMV, aussi une histoire de lettres, hein. Virus qui détruit les cellules du cerveau. Grâce au professeur Duc, qui était alors au Kinderspital à Zurich, Pauline a fait un séjour pour un IRM. Aucune trace de ce fameux virus, et nous sommes donc revenus sans diagnostic et plein d'espoir. Simon est ensuite arrivé en 1996. Lui est aussi né normalement, et à 4 mois, je me suis rendue chez le médecin pour les mêmes raisons que sa sœur. Évidemment que personne ne m'a cru puisque les crises étaient non visibles, elles étaient tout au début, donc non visibles sur léger. Quelques jours plus tard, il a été hospitalisé durant 3 mois. C'était la période scolaire, 3 mois pendant la période scolaire à l'hôpital. Ça signifiait un réseau qui devait se développer autour de ma famille pour garder Pauline qui avait alors 6 ans et mon premier qui avait 8 ans. Donc le réseau s'est fortement agrandi cet été-là. Évidemment, principalement la famille, mes tantes, mes parents, mes belles-sœurs, quelques copines qui avaient le courage de me téléphoner. Simon a été soigné différemment. On lui a donné de la cortisone qui a arrêté complètement ses crises. Son cerveau aurait dû repartir, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'était déjà un choc pour nous d'avoir Pauline, mais là, avec Simon, donc il avait également un arrêt de développement, ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie. On n'arrivait pas avec mon mari à nous projeter avec deux enfants à problème. Et comment faire pour que mon fils aîné trouve sa place dans cette famille? Comment le déresponsabiliser? Car il était toujours à disposition si j'avais besoin de lui. Il en oubliait ses copains, ses loisirs, ses devoirs, l'école, son avenir. Un frère aîné qui faisait son possible, des spectacles, qu'il adaptait ses jeux pour faire plaisir à sa sœur et à son frère. L'absence de diagnostic n'a pas été facile dans notre chemin. Nous sommes connus de beaucoup de centres génétiques en Suisse, même à l'étranger, puisque Pauline a été hospitalisée en 2002 à l'hôpital Necker. Alors avec mon mari, ça a été bien difficile. C'est comme dans toutes les choses, c'est ou que ça pète ou bien que ça continue. Alors chez nous, on était plus forts et j'ai toujours pu compter sur lui. Donc aujourd'hui, Pauline et Simon, ils sont en institution, comme vous l'avez compris, ils comprennent bien, ils communiquent avec des gestes parce qu'ils n'ont pas de langage, des pictogrammes. Simon, il a un iPad et Pauline, elle a un pictogramme sur papier. Mais il est quand même très difficile de communiquer avec eux, d'interpréter, parce qu'ils montrent des images, ils essayent de composer des images, mais on ne sait pas si c'est présent, futur, après, ça. Et bien souvent, donc, il faut interpréter les questions, puis moi, je fais les réponses aussi. Mon mari n'aime pas trop quand je fais les réponses. Les questions et les réponses. Bref, on doit parler à ses enfants, en fait, la plupart des enfants handicapés mentaux, on ne doit pas mettre des négations dans les phrases, on doit souvent parler en positif, car si vous parlez trop avec des négations, ces enfants ont souvent des crises, des angoisses. Pauline a encore besoin de physiothérapie, Simon aussi, donc je les amène une fois par semaine à la clinique bernoise de Montana, car je pense que ces thérapies hors institution les rassurent, leur donnent un bol d'air. Pour eux, d'avoir d'autres personnes qui s'occupent durant la semaine, c'est vraiment une réelle chance. Ils ont besoin d'aide pour aller aux toilettes car ils n'ont pas de précision dans les dates. Problème de motricité fine, pour attacher les boutons par exemple. Ils ont besoin d'aide pour manger parce qu'il faut couper leurs aliments. Et aujourd'hui, il est très difficile de trouver des soutiens pour des adultes comme les miens. Ce qu'il faut dire, c'est que pour les enfants, il y a beaucoup de structures, mais dès qu'ils sont adultes, on n'en trouve plus du tout. Alors, deux rencontres ont été très précieuses pour moi. Ils m'ont guidée durant toutes ces années. La première, c'était avec l'ancienne secrétaire de l'association Intiémé, Lucienne Darbelay. Donc, cette rencontre m'a permis déjà de comprendre que mes enfants pouvaient avoir des loisirs ou d'autres personnes qui s'occupaient de mes enfants. Car Intiémé était créée par des parents en 1962, car rien n'existait en Valais à cette époque. Et ce sont les parents qui ont fait les écoles, les ateliers, créé la FOVAM. Ils ont construit l'école La Bruyère, justement, pour mettre leurs enfants. Et à Martigny, par exemple, l'intégration a été mise en place par mon prédécesseur pour intégrer son fils, Raphaël. Donc, pour moi, comme je pouvais profiter de toutes ces structures que les anciens avaient bâties pour nos enfants, je me suis dit que nous, les parents d'aujourd'hui, nous devions nous battre pour nos enfants. Et donc, c'est pour cette raison que je me suis engagée à NCME. Et toutes les personnes du comité à NCME sont des parents. Rencontre de maman, qui était aussi très, très, très riche pour moi. Comme mes enfants demandent une surveillance constante, il serait malsain pour eux de passer tous les week-ends avec papa-maman. On se disait toujours avec mon mari, essayons de nous mettre à leur place. Est-ce que quand nous étions adolescents, nous aurions voulu faire des booms avec papa-maman? Ou du karaoké. Donc, aucun sens. C'est pour ça que, en m'engageant avec Intiémé, Pauline et Simon partent une fois par mois au Marécotte avec des jeunes étudiants de leur âge et ils n'ont que des moments à eux, sans nous les parents. Avec Intiémé, j'ai aussi appris à faire confiance aux personnes qui s'occupent de mes enfants. Voilà. La deuxième rencontre a été aussi très importante, c'est avec Alexandre Jolien, qui était à l'école, qui fréquentait la même institution que ma fille. Il a été la voix de mes enfants et il m'a énormément aidé à trouver la mienne. Mes enfants ne savent ni lire ni écrire et je ne pourrai jamais me passer des institutions spécialisées. Ils n'iront jamais à l'université, voilà. Petit à petit, j'étais convaincue que la solution pour eux était de les placer en institution, mais partiellement. Par exemple, 2 nuits par semaine. Habitant Chermignon, la Castalie de Montet se trouvait un peu loin de Chermignon. Il m'était donc impossible de faire les trajets et de placer mes enfants seulement 2 jours ou la journée. Alors, en m'engageant à INSEEMEE, j'ai eu la chance d'être entendue par le politique pour demander une ouverture de la Castalie à Sierre. Il a fallu juste 5 ans pour le faire. Il fallait juste expliquer aux politiques qu'un enfant qui était placé à la semaine coûtait simplement bien plus cher qu'un enfant qui restait seulement 2 nuits par semaine. La Castalie à Sierre s'occupe de 28 adultes du Valais central qui sont là-bas en internat à mi-temps, partiellement. De ce fait, ma fille peut aujourd'hui travailler à 80% et y passer 2 nuits par semaine. Je peux ainsi faire de la physiothérapie à l'extérieur avec elle. Non seulement ces placements en temps partiel me déchargent, ils permettent aussi à Pauline et Simon de profiter encore un petit peu de la vie familiale, tout en sachant qu'ils passeront toute leur vie dans une institution. Et ces placements sont très appréciables pour tout le monde. Voilà, pour terminer, j'ai oublié toujours les slides, voilà, c'est le week-end. Donc je suis heureuse que l'association des proches aidants a été créée en février dernier. J'aimerais m'engager au comité pour les familles des parents d'enfants, surtout pour développer et pour faire entendre les soutiens à domicile que nous avons tant besoin. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des aides à domicile sont destinées aux familles qui gardent leurs enfants à 100% à la maison, par une aide de l'AI qui s'appelle contribution d'assistance. Et nous qui avons décidé, qui avons besoin de 2 nuits par semaine, donc on n'a pas d'aide en fait. Et puis aussi pour ces familles qui ont des enfants autistes avec des troubles de comportement très très forts, que notre association par exemple ne peut pas les prendre. Et on aimerait juste nous faire entendre. Voilà, je vous remercie de votre attention, je crois que j'ai tout dit.
Que des familles. Merci Nathalie. Alors moi... Il y a 2 choses que je retiens du discours de Nathalie, et que ça va certainement vous parler, c'est les mots soutien et diagnostic. Ce sont 2 mots qui sont extrêmement importants lorsqu'on est soit malade, soit proche aidant. Et juste avant de parler de mon rôle de proche aidant, j'aimerais juste rappeler en quelques mots notre histoire, parce que bon, peut-être certains le savent ou l'ont lu, mais c'est une histoire quand même de vie qui est assez incroyable, parce que j'estime être quelqu'un d'hyper chanceux. J'ai eu la chance de faire le métier que je rêvais de faire. J'ai eu rencontré ma femme en 1979. C'est aussi notre vie, c'est aussi une histoire de date. Donc c'est une histoire qui dure depuis très longtemps. Et tout allait bien. On a eu 2 filles qui sont en pleine santé, qui ont traversé l'adolescence sans problème. On avait des petits soucis du côté. Oui, Sylvie n'est pas d'accord. C'est elle qui était plus souvent à la maison, mais... Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu de... Voilà, elles ne sont pas devenues fanatiques, elles ne se sont pas droguées, elles n'ont pas... elles ont fumé quelques cigarettes peut-être en cachette, ou bien elles ont fugué 1 ou 2 fois pour aller passer une partie de la soirée chez les copines, mais ce n'était pas très grave. Tout ça pour vous dire qu'en 2003, Sylvie, qui avait toujours rêvé de travailler avec des enfants, a eu la chance de pouvoir entrer à la garderie à Trois-Torrents, le parachute. C'était vraiment le rêve de sa vie. Et la même année, elle a perdu son papa. Je fais juste ce parallèle parce que moi, j'ai quand même l'impression que ça a eu une influence peut-être indirecte sur l'état de santé dans lequel elle est aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui l'a terriblement marqué. Et depuis 2003, sa vie a commencé un tout petit peu quand même pas à décliner, mais j'entends, on a senti des problèmes de fatigue, on a senti des problèmes, elle avait souvent des fourmillements dans les mains, des petits signes comme ça. Et bon, on n'a pas été chercher sur Internet tout de suite ce qui se passait. Et en 2006, elle a fait un malaise à la maison, ce qui fait qu'on a dû l'emmener à l'hôpital. Et là, ils ont monté, ils ont fait un IRM, je crois que c'était à l'époque. Et ils ont vu une petite tache à l'arrière du cerveau. Ils nous ont dit que ça pourrait être un signe avant-coureur d'une sclérose en plaques, mais c'est tellement faible qu'on ne va pas faire des recherches plus loin. Mais On sentait en même temps que c'était difficile, de plus en plus difficile pour elle de conduire. Elle avait des problèmes tout à coup de concentration. Elle faisait des ataxies avec les mains. Donc les ataxies, c'est le moment où les mains tout à coup se figent comme ça. Donc c'était extrêmement dangereux. Et en 2009, on a un peu assisté. On a été à l'hôpital à Sion, voir le professeur Guica, qui lui a été d'accord de faire tous les examens qu'il fallait, ponction lombaire, IRM. Et où ils ont décelé effectivement là, au départ, une sclérose en plaques, mais rien n'était sûr. Alors, je parlais des diagnostics tout à l'heure. Alors, 2009-2013, pour nous, c'était une galère, mais incroyable, parce que pendant 4 ans, on a aussi été passé d'un hôpital à un autre. On nous disait, oui, c'est une sclérose en plaques. Non, c'est pas une sclérose en plaques. Oui, c'est peut-être la maladie de Lyme. Alors, ils refaisaient des tests. Non, c'est pas la maladie de Lyme. Ils faisaient de la virologie, ils cherchaient d'autres choses. Et puis finalement, eh bien, un coup de chance, en 2013, la rencontre avec le professeur Patrice Lalive d'Épinay à Genève, qui est un des spécialistes européens de la sclérose, et qui lui a diagnostiqué clairement cette maladie, et ça a permis à Sylvie déjà d'arrêter d'aller consulter Internet nuit et jour, parce qu'elle cherchait des réponses à ses questions, et tous les gens qui sont malades, je crois, qui sont dans cette situation-là, ne savent pas ce qu'ils ont, on leur dit, c'est peut-être psychologique. Moi, j'ai entendu un médecin un jour lui dire, mais il faut aller consulter un psychiatre, je pense que vous n'êtes pas malade. Et moi, je voyais bien qu'elle avait pratiquement tous les symptômes, de la peine à marcher, de la peine à monter les escaliers, des problèmes de mémoire, des problèmes urinaires, de la fatigue, des douleurs. Et quand ils faisaient les examens, ils disaient, ouais, mais il y a peu de signes cliniques, donc finalement, est-ce que ce n'est pas d'ordre psychologique? Enfin, voilà, jusqu'à que vraiment la maladie puisse être posée. Et moi, j'étais très fâché avec cette maladie au début parce que Sylvie, c'est une personne qui a toujours tout donné pour sa famille. Elle n'aime pas quand je parle de sacrifice, mais c'est quand même une sorte de sacrifice parce que depuis que mes enfants sont toutes... Non, elle dit non, mais ça fait rien. Depuis que les enfants sont toutes petites, elle a toujours tout fait. Moi, j'ai pas, par exemple, un exemple tout bête, je suis pas du tout main verte, j'aime pas faire du jardin. Donc, j'ai toujours milité pour avoir un appartement, elle a toujours milité pour avoir une maison. Donc, je l'ai suivi... parce que, évidemment, les femmes ont toujours raison. Je me suis dit, il faut que je la suive. Mais oui, mais c'est elle qui faisait le jardin, c'est elle qui faisait... Donc, elle a toujours tout fait, elle s'est toujours occupée des enfants. Et j'ai donné cet exemple à Martini il y a 15 jours, qui est assez parlant. Lorsque j'ai embrassé ma carrière de journaliste, j'ai fait un stage dans une radio régionale qui s'appelle Radio Chablais. J'étais très mal payé, d'ailleurs. On avait une maison qui coûtait 2000 francs par mois, parce qu'à l'époque, les taux d'intérêt n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on avait deux enfants en bas âge, donc c'était un peu galère. Et non seulement Sylvie a travaillé, mais surtout elle a géré la famille, elle n'achetait plus rien pour elle, elle ne s'accordait plus de temps et elle s'est un petit peu oubliée. Et une fois j'avais touché 1000 francs de Claude Defago, qui était mon patron à la radio, et j'avais donné ces 1000 francs à Sylvie en disant, tu descends en ville, tu vas t'acheter des habits, mais pour toi, tu as vraiment quelque chose pour toi. Je lui ai dit d'accord, elle est descendue en ville, elle est remontée, elle a effectivement dépensé les 1000 francs mais pour acheter des habits à mes enfants et à moi, mais rien pour elle. Ça, c'est ce qui symbolise cette personne exceptionnelle qui est séduite. Bon, voilà. Donc, on est en 2013 et on apprend par Lalive d'Épinay qu'effectivement, c'est une sclérose en plaques. Donc, ensuite, les démarches que vous connaissez peut-être si vous êtes malade ou proche aidant, notamment avec l'AI, puisqu'elle ne pouvait plus travailler, hein, ça, le médecin avait été très clair. Plus de possibilité de conduite non plus à cause des ataxies, à cause des... Elle a aussi des fasciculations, donc des moments où vous avez les muscles qui commencent à bouger. Les femmes enceintes connaissent ça. C'est un peu la même sensation que quand les bébés bougent dans le ventre, mais c'est au niveau des jambes. Donc tout ça, ça l'empêche de conduire. Donc il a fallu aussi passer par l'AI. On était, voilà, un peu la gêne quand même, parce qu'il faut le dire, c'est quand même un peu gênant de faire ce genre de démarche. Et puis la reconnaissance, qu'elle ait un statut quand même qui a été reconnu ensuite, et faire une petite aide comme ça pour notamment couvrir les frais liés à sa maladie. Au quotidien, c'est pas facile. Moi, je me rappelle que quand on est sorti de l'hôpital en 2009, le docteur Guica m'avait appelé la veille en me disant « j'ai pas une très bonne nouvelle, mais je peux pas vous le dire encore parce qu'on n'a pas tous les examens, mais on a vu quelque chose dans le cerveau qui nous fait penser à peut-être une tumeur dans le cerveau. Donc attendez-vous au pire demain quand vous venez. Je sais pas si vous en parlez à votre épouse avant. » J'ai dit « non, non, on va venir et attendre. » Et quand on est ressorti de l'hôpital, en allant à la voiture, j'ai dit « Sylvie, je suis quand même très rassuré de savoir que t'as pas une tumeur parce que dans 6 mois ou une année, tu serais plus là. » Et elle m'a dit « tu sais, j'aurais préféré avoir une tumeur que d'avoir une sclérose en plaques parce qu'avec cette sclérose en plaques, pendant toute ma vie, je vais être un boulet pour vous. » Et voilà, ça a été un moment extrêmement difficile. Heureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a 2 filles qui nous ont fait 6 petits-enfants, dont 5 vivent à 20 mètres de chez nous. Et c'est une bouteille d'oxygène extraordinaire pour Sylvie. Et je pense que c'est ce qui la tient aujourd'hui aussi, de ne pas lâcher, d'être là, parce qu'elle vit l'enfer au quotidien. On la voit comme ça. Je dis souvent, quand tu vas chez les médecins ou quand tu viens dans des soirées comme ça, viens comme tu es habituellement. Donne pas. Enfin, elle peut pas. Alors, elle se maquille, elle se fait toute belle. Et magnifique. Oui, tu te maquilles à la maison aussi pour moi, mais. Elle a l'air de ne pas être malade quand on la voit comme ça. Les gens qui la connaissent, il y a Marielle qui est dans cette salle, qui est une amie assez proche de nous, enfin même très proche, qui la connaît très très bien, qui voit comment elle fonctionne. Elle fonctionne normalement, elle est assez autonome encore à la maison, elle arrive à avoir les gens envers elle, à vivre normalement, mais elle a toujours besoin que les autres soient rassurés. Avant, elle, d'être rassurée, elle a besoin que les gens qui sont autour d'elle soient rassurés. Et ses petits-enfants, bah, c'est sa bulle d'oxygène, quoi. Et encore au Brésil, récemment, j'ai fait un reportage pendant les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, sur une athlète belge qui s'appelle Marieke Fervoet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme, qui a une maladie dégénérative, mortelle, donc qui va mourir dans l'année qui vient, et qui a fait une demande auprès d'Exit Belgique de pouvoir s'en aller. En Belgique, l'euthanasie est autorisée si vous avez trois médecins qui donnent leur accord. Et elle est venue à Rio, elle a réuni ses dernières forces pour essayer de faire encore une médaille. Elle en a fait deux dans des courses de 100 et 200 mètres en fauteuil. Et ben, j'ai fait un reportage sur cette femme et ça m'a vraiment bouleversé. Et en parlant à Sylvie un soir comme ça, alors qu'elle allait bien, elle m'a dit, ben, je me demande si je ne vais pas faire la même chose, quoi. Faire une demande auprès d'Exit et tout. Et là, je me suis dit, mais... C'est quand même, elle est quand même, doit être dans une situation terrible, quoi. Pour penser à ça, elle a 6 petits-enfants, elle a 53 ans, elle est jeune, de vouloir partir, tellement les douleurs, tellement la vie est difficile pour elle. Donc dans cette vie-là, eh ben, y a la famille et puis y a mon rôle de proche aidant. Alors si je me suis engagé avec l'association quand Julien m'a appelé, ben, c'est parce que j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais quelqu'un qui était proche aidant, quoi. J'ai juste rendu depuis 2009... un tout petit peu de ce que Sylvie m'a donné pendant toutes ces années, parce que je travaille beaucoup, je suis sollicité, je fais pas mal de hockey sur glace, donc je passe très souvent à l'étranger, mais quand même un petit peu, et puis en Suisse, ben, pas mal les week-ends sur les patinoires à gauche, à droite, au Tessin, en Suisse alémanique et tout, donc pas tout le temps à la maison, des horaires très difficiles quand j'étais à la télévision, et j'ai mis du temps à comprendre en fait que j'étais en train de m'épuiser, puis qu'il fallait que je m'accorde aussi un petit peu de temps pour moi, quoi, parce que je crois que les proches aidants, c'est le gros problème qu'on a, c'est que finalement, on est là, au quotidien, moi je me dis toujours, mais par rapport à ce qu'elle a, elle, moi je vais bien, je peux lui donner mon temps, je peux lui donner de mon énergie et tout ça, mais en fait, je suis en train de m'épuiser aussi en même temps, et je crois que ne pas s'oublier, c'est vraiment la chose la plus importante, en tout cas pour ceux qui sont proches aidants parmi vous, et qui ont des gens malades autour d'eux, vraiment ne pas s'oublier. Beaucoup dialoguer. Je pense que c'est un autre, c'est un ciment qui nous a toujours permis de passer les caps difficiles. On a eu des moments très très difficiles. L'année passée, au mois de juillet, on a même failli se séparer. Mais voilà, après on a discuté, on a réussi à remonter la pente. Et je remercie Sylvie de la confiance qu'elle m'a témoignée pour ça. Je suis revenu de la TV à la radio aussi pour me rapprocher de mon domicile, pour avoir moins de déplacements. Ça, 1h20 au lieu de 4h30, ça compte. C'est 3h par jour que je gagne, c'est des nuits à Genève en moins. Donc ça m'a permis de prendre conscience de ce rôle de proche aidant aujourd'hui. Et puis autre chose qui a aussi changé, alors pour moi c'est un petit peu moins entre guillemets important peut-être que pour vous, c'est que moi j'ai été quelqu'un qui a été quand même très médiatisé à l'époque où j'étais à la TV, parce que voilà, je suis un bon gars, je n'emmerde personne, les journalistes m'aimaient bien, donc ils aimaient bien de temps en temps m'appeler et tout ça. Et le fait de revenir à la radio, il y a eu des articles, des gens qui nous ont sollicités, et j'ai dû discuter avec Sylvie de cette médiatisation, en disant, voilà, tu vas être sollicité peut-être par des journalistes, est-ce que ça te dérange s'ils viennent poser une caméra ou bien faire une interview et elle a dit non, parce que j'ai pas besoin de parler de ça, mais si ce que je dis aux journalistes peut aider les gens, encore une fois, elle a, pas le sacrifice, mais le fait de faire passer toujours les autres avant elle, si ça peut aider les gens, je le ferai volontiers. Et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir deux, trois trucs, notamment au moment de la création des proches dans cet article magnifique de Christine Savio dans Nouvelliste. Pour moi, c'est un boulot un peu différent aujourd'hui, plus de temps à consacrer à la famille. Et encore une fois, moi, c'est surtout les courses, les médecins, c'est profiter, enfin, de cadrer mes jours de travail par rapport à la vie de famille. Donc, j'ai peu d'activités accessoires, mais je m'en accorde très bien parce que pour moi, le plus important, c'est de passer un maximum de temps avec la femme que j'aime et avec ma famille. Je crois que ça, c'est très, très important. Et pour finir, je dirais qu'il faut, vous battre si vous êtes malade ou si vous êtes proche aidant, il faut vous battre parce qu'il y a, toujours un espoir. Il y a des jours où elle va très bien, il y a des jours où c'est un peu plus difficile. Mais en tant que proche aidant aussi, jamais oublier ce que la personne malade a fait pour nous avant de tomber malade. Et moi, j'ai 2-3 connaissances, 2-3 cas. Je comprends, je ne juge pas du tout, mais de gens qui ont eu leur conjoint qui sont tombés malades puis qui ont quitté le bateau tout simplement parce qu'ils ne se sentaient pas assez forts pour résister. Alors, si ça se fait après réflexion, bah, c'est vraiment trop difficile, je peux le comprendre. D'autres sont partis vraiment tout de suite parce qu'ils ont paniqué. Ça, j'ai un petit peu plus de peine à le comprendre parce qu'ils n'ont juste pas fait le chemin inverse, c'est-à-dire se dire, bah, tiens, pendant des années, elle était là pour me soutenir. Des fois, elle me dit, mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? J'ai dit, mais parce que pendant des années, tu as tout fait pour moi. Donc, tu m'as poussé à faire ce métier, tu m'as aidé, tu as été travailler quand je ne gagnais pas d'argent et qu'il fallait faire vivre la famille. Donc, je ne te rends pas l'appareil, mais c'est juste que c'est normal qu'aujourd'hui, je sois là pour toi. L'association, c'est un sacré espoir. Ça, c'est l'autre gros problème qu'on a. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans la polémique, mais les associations, les assurances, ça me fait des fois un peu sourire parce que tu vois les aides qui nous amènent. Ça ne représente pas grand-chose. Un exemple, le ménage, on aurait besoin de 3 à 4 heures par semaine pour la soulager un maximum. Moi, je fais tout ce que je peux, mais je n'arrive pas à faire plus. Mais 3-4 heures par semaine, ça sera un minimum. Les assurances payent 500 francs par année, 800 francs par année. Chez nous, hein. Dans notre cas, nous. Hein. Ben, pas aussi parce qu'on est assuré comme ça. Peut-être qu'on aurait dû penser avant, mais on ne pense pas toujours. Et donc, si on faisait ça, ben, on devrait dépenser des milliers de francs par année pour ça. Alors, on le fait, évidemment, parce que c'est le plus important aujourd'hui, c'est de la soulager. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours... On n'est pas toujours aidé dans le bon sens du terme. On a eu une expérience aussi un peu traumatisante avec Transport Handicap. Je pense qu'il y en a un ou deux d'entre vous qui a peut-être vécu ça aussi, quoi. On n'a pas compris qu'une série de factures qui partaient à l'assurance étaient beaucoup plus chères que les factures qu'on nous faisait habituellement quand c'était à titre privé. Alors, il paraît que c'est normal, mais là aussi, tout à coup, on se rend compte que 2 transférations, ça mange ce que l'assurance nous paye sur une année. Donc ensuite, ben, c'est tout à notre charge. Donc l'association, elle va amener ça aussi, c'est-à-dire de dire, ok, vous avez un problème, ben, vous savez qu'il y a telle association, je crois qu'il y a ProSénectoute qui fait des choses, il y a l'AI, il y a des possibilités aussi par rapport à l'AI d'obtenir des aides complémentaires, c'est ce dont parlait Nathalie tout à l'heure. Et c'est ce genre de petites choses, quand vous cherchez sur Internet, vous ne trouvez pas, il n'y a rien, il n'existe rien. Et ça va quand même amener quelque chose de positif. L'association n'a pas de but lucratif, hein, je ne pense pas qu'on va pouvoir aider les gens financièrement, mais faire des grands gueuletons non plus, c'est pas le but, mais si ce n'est déjà qu'une plateforme qui permet aux gens de se dire ok, j'ai un problème, puis de trouver la réponse au travers de l'association, je pense que c'est vraiment très important. Puis dernière chose, c'est un message, je pense qu'il faut pas lâcher prise, quoi. Il faut être positif pour la personne malade parce que c'est aussi nous les proches aidants aujourd'hui qui sommes qui devons porter les gens qui sont malades, les aider à rester en vie et à continuer à espérer parce qu'ils traversent, enfin la plupart d'entre vous traversez des moments difficiles, j'ai beaucoup de respect pour, j'en ai toujours eu d'ailleurs, hein, parce que même avant que Sylvie tombe malade, quand j'étais à la radio, j'ai toujours une pensée le soir de Noël quand j'animais des émissions à Radio Chablais pour les gens qui étaient dans les hôpitaux et tout, donc ça me touche particulièrement de pouvoir parler de ça aujourd'hui, mais je pense qu'il faut essayer d'être le plus positif possible et puis de vous entraider, quoi. Et puis encore une fois, insister pour avoir un diagnostic si vous n'êtes pas au courant, si vous avez une maladie et que les médecins vous balancent, vous basculent, n'hésitez pas à vous battre pour dire non, on veut ça, parce qu'une fois que vous battez, les médecins, ils n'ont pas d'autre choix que de faire ce que vous leur demandez, et puis aussi de garder espoir, je crois que c'est le plus important, quoi. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Bravo.